Pauline Pucciano, Paradict, 13 octobre 2071. Les enjeux du gouvernement à venir. Lancement officiel de la campagne dans quelques jours. Carte du réchauffement, les zones les plus touchées dans les 10 prochaines années. Elsée n'avait pas un instant de repos dans l'état d'excitation permanente où elle se trouvait. Les dossiers qu'elle découvrait la passionnaient, et sa soif d'apprendre, de connaître l'historique de chacun d'entre eux, d'acquérir une légitimité pour les traiter, ne semblait pouvoir jamais s'étancher. Il s'agissait de la gestion des affaires terroristes, du déroulement de la campagne, du fonctionnement des institutions de la WA, c'est-à-dire de tous les dossiers globaux qui ne relevaient pas spécifiquement du Parti du Développement, mais d'un candidat à la magistrature suprême. Elle lisait sur son écran d'ordinateur jusqu'à voir des taches rouges danser devant ses yeux. Des rapports administratifs, des comptes rendus de réunions, des projets, des avant-projets, des avenants aux projets, des listes d'objectifs, des organigrammes, des synthèses, mais aussi des essais, des discours. Elle visionnait des interviews, elle apprenait le nom et le visage de tous ses collaborateurs potentiels, elle abattait, avec une ardeur infatigable, le travail de toute une équipe. Lorsque sa concentration intellectuelle venait à défaillir, ce qui n'arrivait en général qu'au bout de longues heures, elle acceptait souvent l'invitation de Terence, qui semblait attendre ce moment avec une patience égale et qui se montrait toujours disponible et désireux de lui changer les idées. Il n'était jamais loin d'elle, dans sa fièvre de travail. Dans le couloir, il la regardait de manière appuyée en passant devant sa porte. Dans son bureau, lorsqu'elle avait une question à lui poser, il la comprenait toujours à demi-mot, et il lui fournissait une aide précieuse. Dans sa boîte mail, ses messages survenaient à intervalles réguliers. Sa prose élégante et ironique tranchait toujours avec la langue de bois des autres messages, et elle restait toujours rêveuse, un moment, à savourer la tournure de son esprit supérieur. Terence l'enveloppait de sa présence, de ses mots, de ses conseils discrets, toujours pertinents et jamais condescendants. Son intelligence la séduisait, infiniment, et elle aimait se sentir hissée à la hauteur d'un pareil interlocuteur. Elle avait fait à son sujet plusieurs rêves érotiques, et se laissait porter par cette vague lente et puissante. Leur rapprochement paraissait inéluctable. C'était un rivage sur lequel ils finiraient par accoster, mais elle n'avait ni le temps ni l'envie de précipiter ce voyage. Cette approche amoureuse, mêlée à son activité intellectuelle intense, l'emplissait comme une drogue et lui donnait la sensation d'un merveilleux mouvement ascendant. Elle relisait pour la troisième fois le petit message que Terence lui avait envoyé dans l'après-midi. « Chère Elsée, la compagnie prolongée de la directrice de la communication et l'animation laborieuse d'une réunion planifiée sans réel objet me font désirer plus que tout un dîner en tête-à-tête et la perspective d'une conversation pétillante. Puis-je vous espérer ce soir ?» Elle apprécia à cette troisième relecture l'emploi du mot « espérer » qui lui sembla à la fois délicieusement désuet et plein d'un double fond de fantasmes inavouables. Avec un sourire inconscient, que personne ne pouvait voir dans la solitude de son bureau, elle envoya sa réponse. « Vous pouvez m'espérer, si vous êtes capable de m'attendre. Je dois achever la passionnante lecture du rapport de la Cour globale des comptes sur l'Intel Agency et n'en suis qu'à la page 169. » Terence lui répondit presque immédiatement. « Je viendrai vous sauver de cette entreprise suicidaire vers 20 heures. » Le sourire sur les lèvres d'Elsée s'étira et elle eut un peu de mal à se remettre au travail. À 20 heures, ponctuel comme le destin, Terence se présenta à la porte du bureau obscurci. Il n'y avait plus grand monde dans les locaux de la WA, et les couloirs silencieux ne bénéficiaient plus que de l'éclairage avare du mode nuit. « À quelle page êtes-vous arrivé ?»« 387 sur 510. Je n'arrive plus à suivre les lignes. »« Vous avez eu les yeux plus grands que le cerveau. Personne ne peut lire in extenso un rapport aussi indigeste en une seule fois. » Indigeste, certes, mais édifiant. Terence eut un petit rire qui montrait qu'il n'avait pas envie de parler sérieusement. « Vous m'édifierez devant un bon repas, cela vous convient ?» Elle prit ses affaires et se laissa guider jusqu'à la rue. La présence de cet homme à ses côtés, sa haute taille, son pas tranquille, sa connaissance intime du quartier, commençait à lui être familière, mais elle en appréciait encore la nouveauté. Il était agréable d'imaginer le tableau qu'ils offraient tous les deux, et elle avait du mal à penser à autre chose tandis qu'elle allongeait le pas pour éviter de trottiner à sa hauteur. Nous pourrions nous tutoyer, proposa-t-il soudain, en tournant la tête vers elle. Elle se sentit rougir dans l'ombre et fut heureuse que cela passât inaperçu. « Je vais avoir beaucoup de mal à y parvenir, » dit-elle. Il s'arrêta, et elle l'imita. Il n'était pas devant le restaurant, et leur arrêt en pleine rue ne pouvait signifier qu'une chose. « Il n'est pas courant de s'arrêter en pleine rue, » remarqua-t-elle ingénument. « Avec les risques d'attentats et la nocivité de l'air, » enchaîna-t-il. « Est-ce vraiment à cela que tu penses à l'instant présent ?» Le tutoiement l'avait caressée, et elle se sentait fondre sous cette intimité qu'elle désirait autant que lui. « Non, je pense à la façon dont tu vas m'embrasser, » avoua-t-elle, en plantant son regard dans les yeux gris impénétrables de Terence. Il commença par caresser son visage de sa main fine d'intellectuel, et il l'embrassa lentement. Dans la nuit tombée, des passants portant des masques filtrants et des voitures électriques répandant un clignotement de lumière bleue circulaient silencieusement autour de leurs baisers. Ils eurent l'impression de tomber lorsque leurs bouches se séparèrent et leurs mains se rejoignirent sans qu'ils eussent besoin de parler. Ils passèrent devant un hôtel-restaurant où quelques personnes faisaient la queue pour le scan. Elsie lança un regard d'invitation à Terence, car son désir en était à ce point où les autres considérations lui paraissaient de peu d'importance. Mais il lâcha sa main doucement et hocha la tête. Il attendit d'avoir dépassé la queue pour lui dire « Il y a trop de collègues de la WA dans cet hôtel. » « Est-ce à cela que tu penses à l'instant présent ?» demanda-t-elle avec une pointe de provocation. Il reprit sa main comme pour la rassurer sur son ardeur. « Viens chez moi, » dit-il. « Nous dînerons plus tard. » Elle ne souffla mot et le suivit. Elle ne devait guère se souvenir plus tard des détails du trajet. Ils prirent l'interurbain, où ils restèrent debout sans parler l'un contre l'autre. Elsie n'avait jamais ressenti autant de désir pour un homme. Le contact de sa cuisse, de sa poitrine, l'effleurement de ses mains, lui donnait presque la chair de poule. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, la longue exaspération de ce désir contraint se dénoua. Elle ne pensa plus qu'à l'attirer contre elle, en elle, et ils firent l'amour sans se déshabiller entièrement sur un divan du vestibule. L'orgasme fut violent, intense, et lui arracha un cri. Haletante, elle s'éveilla de ce rêve éveillé, consciente tout à coup du désordre de sa coiffure, de ses vêtements. Terence avait légèrement rougi avec l'effort, et elle évita son regard le temps de se rendre à la salle de bain. Quand elle revint, il avait retrouvé toute sa contenance, avec un regard encore plus caressant, encore plus insistant qu'à l'ordinaire, comme s'il la voyait encore nue à travers ses vêtements rajustés à la hâte. « Est-ce que tu arriveras à me tutoyer maintenant ? » demanda-t-il en souriant. « Je ne sais pas, nous allons le savoir bientôt. » Il l'embrassa à nouveau, tendrement, et passa la main sous son corsage, furtivement, comme pour s'en assurer la propriété. Puis il la pria d'attendre quelques minutes dans le salon, où il allait lui apporter de quoi manger et boire. Elle se coula dans le canapé, voluptueuse, et laissa ses chaussures à terre. Le salon était aveugle, comme dans toutes les résidences des personnalités politiques. Des fenêtres holographiques s'ouvraient sur des paysages artificiels, mais le charme de la pièce se trouvait ailleurs, dans la bibliothèque immense où des couvertures de cuir aux écritures dorées rappelait des jours anciens. Un bonsaï, probablement séculaire, occupait l'espace central, et Elsie contempla longuement sa forme trapue et puissante, ses branches au feuillage touffu, imaginant des personnages miniatures s'installant sous son ombrage ou grimpant à son tronc noueux. « Tu admires mon bonsaï ?» demanda Terence, en revenant avec un plateau chargé d'amuse-bouche et de fruits découpés en morceaux. « Oui, il est magnifique. C'est un pin blanc du Japon. » On m'a assuré qu'il avait résisté à la bombe atomique sur Hiroshima. Elsie le regarda à nouveau, troublée. C'est un organisme qui a été soumis à toutes sortes de contraintes, continua-t-il. On a étouffé sa croissance, on l'a exposé à des radiations. Et pourtant, il a gardé sa forme, et il est toujours debout. C'est un modèle de résilience, à la fois individuel et collectif. Je m'en inspire à titre personnel, mais il me semble aussi représenter quelque chose de notre civilisation. « Cela plairait à Abel, » songea Elsie. « Je ne vous savais pas si philosophe, » dit-elle à voix haute. « Ça y est, nous en avons la confirmation. » Elsie fronça les sourcils. « Tu n'arrives pas à me tutoyer, » précisa Terence. « Avec un verre de vin, peut-être ?» Terence la servit. « Je te remercie, » articula-t-elle. « Voilà un tutoiement avec préméditation. » Elle comprit, au regard qu'il lui lança, qu'il interprétait cette difficulté à le tutoyer comme une conséquence de leur différence d'âge, et se promit de ne plus rien en montrer. Elle se sentait très amoureuse de cet homme, qui venait de lui donner beaucoup de plaisir, et qui était capable l'instant d'après de la faire réfléchir sur la condition humaine à l'aide d'un bonsaï. Elle se sentait si amoureuse qu'elle avait relégué dans un coin obscur de son esprit toutes les questions, toutes les réserves qu'elle s'était formulées à son égard. Ils mangèrent de bon appétit, et firent l'amour une deuxième fois, plus posément et plus lentement que la première, en prenant le temps de se regarder, de se sourire. C'était un homme plein de tact, qui considérait le plaisir qu'il donnait au moins autant que celui qu'il prenait. L'idée effleura Elsée qu'il ne s'y serait pas pris autrement pour gagner un total ascendant sur elle. Cette soirée trop parfaite avait quelque chose de savant, quelque chose d'efficace, qui ne cadrait pas tout à fait avec ce qu'elle connaissait de l'amour. Mais qu'en connaissait-elle après tout? Elle était nue dans le lit, son verre de vin sur la table de chevet, et Terence regardait son corps, ses courbes et ses lignes, comme pour en enregistrer le moindre détail. « Tu n'as pas de questions à me poser ?» demanda-t-il. « J'en ai une bonne centaine, » sourit Elsée. « À commencer par celle-ci. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de femme dans ta vie ?»« Comment est-il possible, et cela est beaucoup plus étonnant, qu'il n'y ait pas d'homme dans la tienne ?» Elle remarqua qu'il répondait à sa question par une question symétrique, doublée d'une flatterie. Cela était sans doute ancré profondément dans ses habitudes. Elle ne pensait pas qu'il le fît exprès. « Pourquoi m'as-tu laissé me débrouiller avec le projet Léviathan? Quel est ton contentieux avec eux ?» Terence soupira. « Voilà une question bien peu romantique, » reprocha-t-il. « Et voilà une réponse bien évasive. J'ai bien failli te détester après la première réunion. » Terence comprit qu'il était au pied du mur, et son regard se fit plus direct, plus franc. « J'ai toujours émis beaucoup de réserves sur le projet Léviathan. Notre différend ne date pas d'hier. Quel genre de réserve ? Je ne souhaite pas t'influencer. Du moins, je voudrais te mettre en garde, tout en te laissant une entière liberté de jugement. Me mettre en garde contre quoi ? Lorsque tu rencontreras Léviathan, pose-lui des questions. Quel genre de questions ? Demande-lui des préconisations pratiques pour régler tel ou tel problème, par exemple, le problème de la surpopulation mondiale. Que va-t-il me répondre ? Je ne sais pas exactement, mais j'ai des craintes. Il ne s'agit pas d'un programme conçu pour prendre des décisions. De quoi as-tu peur ? Terence ne voulait pas se montrer offensant, mais l'enjeu de la discussion dépassait le cadre strictement sentimental. Il prend, de fait, des décisions. C'est lui qui a décidé de ta nomination, Elsée. Sur des critères objectifs et non idéologiques ? Peut-être. Mais le choix d'un candidat n'est-il pas, ne devrait-il pas être, justement, idéologique ? Elsée secoua la tête, un peu refroidie. « Tu penses que ma nomination est une erreur ?» Terence eut l'air sincèrement surpris et blessé. « Ai-je jamais rien fait qui puisse te laisser penser une chose pareille ?»« Une question pour une question, » releva-t-elle. « Il pense que ma nomination est une erreur. »« Non, excuse-moi. Je me demande simplement si ce n'en est pas une. »« Si tu veux mon avis, tu es une chance inouïe pour le parti. » Tu es brillante, tu abats un travail phénoménal, tu apprends vite. » Ces compliments excessifs la mettaient mal à l'aise. Elle ne voulait surtout pas les prendre pour argent comptant. Il était plus prudent de continuer sur un autre sujet. « Que penses-tu de la gestion des affaires terroristes par l'Intelligency ?»« Je pense que tout cela est très opaque et que les cadres de l'agence servent des desseins très complexes. Qui échappent aux politiques ?»« Oui, dans de trop grandes proportions. Dans certaines affaires, le renseignement prend le pas sur la sécurité, et on ne sait plus tellement quel est le but de l'agence. Que penses-tu vraiment de Saphir ? Terence fronça les sourcils d'un air coupable. Il est prodigieusement ennuyeux. Ils rirent et passèrent le reste de la soirée à échanger des points de vue, des jugements sur des situations qu'ils avaient vécues, des personnes qu'ils avaient fréquentées à la WA. Il semblait à Elsée que la conversation avec Terence devenait un peu plus libre et que le quant à soi qu'il gardait toujours perdait du terrain. Elle rentra chez elle amoureuse, la chair heureuse et l'esprit légèrement étourdi. Devenir la maîtresse de Terence Oxford avait certainement encore plus de saveur que d'être désignée comme candidate à l'élection et, dans sa chance inouïe, elle avait obtenu les deux.